Quality sounds, tune into CKUT 90.3 on the Frequency Modulation Band Radio. www.ckut.ca on the internet. Streaming audio, archive shows, and information.
CKUT.
Salut, ici Queen and Queer avec DJ Sam
et Marilyn Thomas.
Vous écoutez Les Nouveaux Sons avec Nathalie Di Palma sur les ondes de CKUT 90.3 FM.
Bonsoir et merci d'être à l'écoute. Dans un premier temps, nous recevons les organisatrices de la soirée Queen and Queer, Marilyn Thomas et DJ Sam. D'ailleurs, toute la musique que vous allez entendre ce soir a été choisie par DJ Sam. Ensuite, Nancy Pettinicchio vient nous parler de son film Falena, qu'elle a scénarisé et réalisé. Et on écoute tout de suite I Don't Know Why et on revient avec Marilyn Thomas et DJ Sam.
I don't know why I feel this way.
avez sans aucun doute entendu parler de la soirée Queen and Queer. J'ai personnellement eu le plaisir d'aller à la première édition co-organisée par Marilyn Thomas et DJ Sam au bar Notre-Dame-des-Quilles en décembre. Elle a réussi à me faire danser, ça c'est déjà un exploit en soi. C'est un plaisir de les recevoir. Bonsoir DJ Sam et Marilyn Thomas.
Bonsoir. Bonsoir.
On commence à connaître DJ Sam grâce aux soirées Queen and Queer. Marilyn, ton rôle est un petit peu plus dans l'ombre. J'aimerais en savoir un peu plus sur vous deux. Est-ce que vous voulez vous présenter?
Oui, il n'y a pas de problème. En fait, tous les deux, on est les créatrices et les organisatrices de Queen and Queer. Mais avant tout, en fait, on est deux amis. Puis on se connaît depuis 3 ans environ. On a été présentés après un set de Sam, en fait, au Mado. Puis on a passé la soirée ensemble à discuter finalement de nos aspirations, discuter de projets, discuter de musique, de faire des jokes. Fait qu'on a passé beaucoup d'heures jusqu'à quasiment 2h du matin, je pense. Et puis on a découvert qu'on avait énormément de points communs. En fait, Sam et moi, on est tous les deux, déjà, on est des immigrants. Puis on travaille aussi en ingénierie. Et puis Sam a d'autres passions à côté, un peu comme moi. Là, on a une deuxième vie. On a notre vie de professionnel d'ingénieur. Puis on a notre vie à côté, comme Sam, par exemple, qui est DJ, comme vous savez. Mais c'est aussi une technicienne de son. Puis moi, à côté de ça, je suis aussi formée en brasserie. Donc, je suis un peu brasseur, sur mes temps libres. Donc, on a des passions tous les deux qui se rejoignent. Et principalement, je te dirais, on a un profil d'entrepreneur. C'est un peu ça qui ressort. Puis c'est assez évident qu'on allait partir quelque chose ensemble, en fait.
Donc, c'est un peu une amitié coup de foudre.
Oui, c'est un peu ça qui s'est passé. Puis on traîne ensemble depuis 3 ans. On se voit presque tout le temps. Quasiment tous les jours, en fait. Fait que, c'est assez évident qu'on allait finir par faire quelque chose ensemble, vraiment un projet dans ce style-là événementiel.
Puis, pour ajouter à ce que dit Marilyn, je me rappelle très bien que la première fois qu'on s'est rencontrés, un des sujets de discussion, justement, c'était les soirées pour les femmes à Montréal. On passait un petit peu en revue toutes les soirées, qu'est-ce qu'on en pensait, lesquelles est-ce qu'on fréquentait. Et puis, c'est parti un peu de là, je te dirais. C'est comme quasiment du premier jour qu'on prépare ce projet petit à petit, et puis il s'est concrétisé plus l'année dernière.
Oui, c'est ça. Ça faisait donc un bout de temps que vous y pensiez à mettre sur pied ces soirées-là.
Oui, oui, c'est ça. En fait, dès le début, donc, on avait toujours, je te dirais, ce besoin. On en discutait souvent des soirées, qu'est-ce qui manque, ah, ça serait bien d'avoir ça. Et puis, comme disait Marilyn, il y a toujours cet aspect un peu entrepreneur qu'on a toutes les deux. On passe, je te dirais, pas mal la semaine à penser à plein de projets, que ce soit organiser des soirées, ouvrir un resto, un bar, un café, c'est vraiment tout type de projet. Mais c'est vraiment les soirées Queen and Queer, c'est notre premier projet à deux. Et puis ça va chercher là, notre fibre un peu de auto-entrepreneur. Là. Ouais.
Marilyn, elle disait qu'elle t'a rencontrée pendant que tu jouais au bar à Mado. Donc, tu étais déjà DJ avant de faire les soirées Queen and Queer.
Oui, oui, oui. En fait, moi, ça va faire bientôt 5 ans que je suis DJ. Essentiellement, moi, je mixe plus dans les bars. Souvent, ça va être dans les bars au village, que ce soit Mado. J'ai une résidence aussi au bar Renard. Ça va bientôt faire 5 ans que je mixe là-bas à chaque semaine quasiment.
Ah, quand même.
Oui, oui, oui. Et puis, je fais aussi tout ce qui est soirée privée. J'ai fait un peu de corpo. J'ai participé aussi à quelques événements extérieurs, des festivals comme la soirée du 31 décembre à Drummondville. J'ai aussi mixé pour Fierté Montréal. J'ai mixé au festival Afromonde. Donc, c'est ça. Je te dirais, Queen and Queer, c'est vraiment la continuité là, de ma carrière de DJ. Là. Mais c'est pas là que j'ai commencé. Là. C'est pas là qu'elle a commencé, mais pour répondre aussi à ta question, tu sais, c'est vraiment l'axe pour les femmes et soirées pour femmes. On y a pensé, je dirais, un peu plus il y a 1 an. Puis on a commencé ensemble, en fait, dans les parcs, entre les ouvertures-fermetures, tu sais, au niveau de, tu sais, au moment de la COVID, on a commencé à faire un peu plus de prestations à l'extérieur. Donc à l'époque, c'était plus sur DJ Sam, en fait, c'était pas Queen and Queer. Mm-hmm. Et c'est là qu'on a commencé un peu plus à travailler ensemble. Puis c'est vrai qu'à cette époque-là aussi, Sam ne pouvait plus travailler en tant que DJ. Donc on allait un peu travailler son image, mm-hmm. Son image personnelle. Et c'est un peu comme ça que finalement que ça a commencé. Fait que c'est ça en plus qu'on a ajouté. Ouais, c'est ça. Pendant la COVID, moi, je ne pouvais plus vraiment mixer. Puis à un moment donné, il y a comme un manque là, qui a commencé à s'installer. Donc Marilyn, je te dirais, elle m'a un petit peu sortie de ma zone de confort. Elle m'a poussée à faire des soirées live là, sur Facebook.
Okay.
Donc maintenant, ça se fait moins parce que la vie reprend petit à petit. Mais c'est ça. Donc Marilyn m'a encouragée à le faire parce que ça commençait à sortir à ce moment-là. Moi, je ne suis pas la personne, je te dirais, la plus à l'aise là, devant la caméra ou autre. Malgré le fait que je sois DJ, je suis quand même une personne assez introvertie. Donc, j'ai accepté le défi. Puis voilà, on a fait une première vidéo. Je me rappelle, c'était dans le salon, je crois.
C'était dans le salon. C'était pas très bien fait. À l'époque, c'était notre toute première dans le noir, je te dirais. Puis ça m'était un peu timide à l'époque.
Ouais.
Au fur et à mesure, en fait, on a créé une habitude sur sur Facebook à faire des lives. À chaque semaine, on lançait un live d'une heure. Puis Sam préparait ses sets systématiquement dans la semaine. Mm-hmm. Fait que là, tu t'es amélioré aussi. Là. Puis au fur et à mesure, tu sais, c'est ça qu'on faisait chez moi. Là. Moi, je préparais les setups, je faisais la diffusion, puis Sam préparait la musique. À chaque semaine, il y avait de l'amélioration, que ce soit au niveau vraiment du son, au niveau de la qualité de l'image. On voyait que systématiquement, là, on était meilleur.
Mm-hmm. Ça a vraiment bien pris. On a eu vraiment de super de beaux commentaires. Les gens ont vraiment apprécié. Donc, non seulement, moi, ça m'a sorti de ma zone de confort, mais ça m'a donné, je te dirais, davantage envie de développer là, tout l'aspect médias sociaux. Et après les vidéos, en fait, on a embarqué plus à faire des petites sorties. On a fait des DJ sets dans les parcs. Donc, il y en a eu un au parc Angrignan, il y en a eu deux au parc La Fontaine. Et puis, c'est là, en fait, que tout à l'heure, quand on parlait de l'aspect entrepreneurial, c'est là que ça, on l'a encore plus ressenti parce qu'il fallait organiser tout ça, louer du matériel, faire la promo. Donc là, on travaillait, je te dirais, pour notre propre affaire. Là. Mais même si on ne gagnait pas d'argent, là, on le faisait juste pour le fun. Et encore une fois, ça a vraiment bien pris. On a eu de super bons retours. Bon, ça a fini par un ticket de la police. Ça, c'est le côté un peu moins le fun. Mais voilà, donc c'est parti de là. Donc, on a vu que ça prenait bien, mais on aimait ça travailler pour notre propre affaire. On ne comptait pas les heures. On avait vraiment beaucoup de plaisir. Et puis, la fatigue, on ne la ressentait pas tant. Et voilà, petit à petit, je te dirais, discussion après discussion, on s'est dit, et pourquoi pas, on ne lancerait pas notre soirée pour filles, dans le sens vraiment très, très large du terme, bien sûr. Et puis, voilà, c'est parti comme ça. Et ça fonctionne bien. On est vraiment content. Et puis, je me rappelle le déclencheur, je pense, c'était la... Il y avait une diffusion, là, c'était le Premier ministre, François Legault, qui faisait le point de presse, là. Je crois que c'était un jeudi 13h. Et puis, moi, j'étais devant, j'écoutais ça. Et puis, il a annoncé la réouverture des bars.
C'était en décembre. Et puis là, Sam s'est comme réveillé. En fait, je pense que t'as fait un saut sur ta chaise, là.
Ouais.
C'était le temps, c'était comme on avait trouvé le bon moment pour partir les soirées. Donc, c'était évident qu'on allait le faire là. Donc, la première soirée, on l'a faite le 5 décembre à Notre-Dame-des-Quilles. Ça a très, très bien fonctionné. En fait, une très, très belle réponse. On l'a répliqué, on l'a refait ensuite au Timis. On l'a fait le 19 mars. On a trouvé une salle beaucoup plus grande parce qu'on n'était pas capable d'accommoder à l'époque tout le monde à Notre-Dame-des-Quilles. Puis, on a réussi à accueillir 300 personnes. Encore, il n'y avait pas assez de capacité. On était soldats, c'est quasiment.
Ouais. Donc, voilà. C'est grâce à Monsieur Legault que tout ça est parti.
Sam, comme DJ, est-ce que ça a été difficile pour toi de faire ta place dans ce métier-là?
Je te dirais, ça dépend. Ça dépend pour quel type de projet ou d'endroit. Si c'est pour aller mixer, je te dirais, dans les bars ou les soirées, j'ai pas tant eu de difficultés. Je te dirais que c'est moi-même qui vais avoir tendance à être un peu sélective sur les endroits dans lesquels je veux aller mixer parce que j'ai un style de musique. Je veux avoir du fun, en fait, là, quand je mixe. Et puis, si on propose d'aller dans un bar pour jouer que de la pop ou que du hip-hop, c'est sûr que je vais pas embarquer. Donc, c'est plus moi qui vais être sélective au niveau de tout ce qui est bar ou soirée privée. Après, c'est sûr que tout ce qui concerne les événements d'envergure ou les festivals, c'est un tout autre monde parce que là, en fait, il se trouve que moi, j'ai pas assez de contacts. Ça marche beaucoup par contact. C'est comme ça que je l'ai compris avec le temps. Donc, pas mal par contact. Et puis, la première question qu'on va te poser, quand moi, des fois, j'approche les organisateurs ou autres, la première question, c'est « Ok, montre-nous tes réseaux sociaux. » En fait, ils veulent vraiment voir est-ce que tu as beaucoup d'abonnés, est-ce que tu es très présente sur les médias sociaux. Donc, ok, est-ce qu'on peut te faire confiance? Si on te book, y a du monde qui va venir à la soirée ou à l'événement. Donc ça, je te dirais, c'est beaucoup plus difficile. J'aspire vraiment là, à mixer un jour dans un événement majeur, style pique-nique électronique ou être, je ne sais pas, sur la scène principale de Fierté ou quelque chose de très, très montréalais. Et à côté, moi, c'est ça, comme disait Marilyn, j'essaye de travailler plus tout l'aspect médias sociaux. Ce n'est pas mon fort, là, j'avoue, mais j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, pour se faire connaître, il fallait passer par cette voie-là. Donc, on travaille là-dessus, mais c'est sûr que parfois, ça peut être un petit peu déstabilisant de voir que dans tes soirées, ça se passe super bien, il y a du fun, il y a des gens qui embarquent, il y a du monde qui vient pour te voir, mais ce n'est pas reflété dans les médias sociaux. Donc, pour les organisateurs d'événements, c'est comme si ça n'existait pas. Donc, voilà.
On s'en va en musique avec Operator et on revient avec DJ Sam et Marilyn Thomas de la soirée Queen and Queer. Nous sommes de retour avec DJ Sam et Marilyn Thomas qui organisent la soirée Queen and Queer. Vous m'avez dit aussi, quand on s'est parlé, qu'il y aura un roulement de DJ différents à vos soirées. Quels sont les styles musicaux auxquels on peut s'attendre pour les futurs Queen and Queer?
Oui, en fait, nous, ce qu'on propose le plus, c'est de la house. C'est vraiment la signature de Sam. On est plus dans ce style-là, en fait. Mais en fait, il va y avoir d'autres invités. Puis un petit peu, pour reprendre les termes de Sam, là, c'est vraiment son expression. Elle, ce qu'elle aime, puis moi aussi, c'est vraiment les happy beats. Donc, on cherche des DJ qui font ça, qui sont happy. Et en fait, c'est un work in progress, je te dirais, parce qu'au prochain, par exemple, on va avoir une DJ Shades qui fait plus de la soca. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore offert. Donc, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Donc, on va rajouter cette couleur aussi pour un des événements. C'est vraiment une recherche qu'on fait encore maintenant. On lance un appel d'ailleurs. On voudrait des DJ qui se présentent, des DJ femmes. C'est ce qu'on met en avant pour les prochains événements parce qu'il va se passer encore d'autres choses tout au long de l'été, en fait.
Mm-hmm. C'est house, comme disait Marilyn. Ça reste toujours dans le house, dance, électro. L'objectif, c'est d'avoir vraiment des soirées où tu vas écouter des choses que tu n'as pas l'habitude d'écouter ou quelque chose qui va différer en fait de ce que tu entends d'habitude dans les autres soirées. Donc c'est sûr que ça serait beaucoup plus facile d'aller dans la pop ou dans le top 40. Ça c'est sûr que les gens embarquent très facilement là, mais c'est trop facile. Et puis nous on veut vraiment proposer quelque chose de différent. Ça reste un défi. En tant que DJ, personnellement, je trouve que il y a des publics, on va dire, qui sont plus difficiles à contenter que d'autres. Donc nous, on cherche. Le défi, c'est de proposer de la musique qui sort un peu, j'allais dire, des sentiers battus, mais qui reste quand même quelque chose d'accessible. C'est pas du tout de la house niche où tu te mets dans un mood. C'est vraiment très, très accessible à tout le monde. Je pense que tu étais venu à une de nos soirées, tu as pu avoir un peu un avant-goût. Là, c'est pas du tout niche ou quoi que ce soit. On est là pour faire le party, pour avoir du fun, pour être, j'allais dire, tous ensemble. C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas, je te dirais, de discrimination genre, race, sexualité ou autre. C'est ouvert à tout le monde. C'est sûr qu'on va plus focusser, on met, je te dirais, en priorité les femmes de la communauté. Encore une fois, femmes au sens large du terme. Donc toute personne qui s'identifie comme femme, c'est important de le mentionner. Mais dans nos soirées, il y a aussi des personnes qui ne se considèrent pas comme femmes et puis elles sont les bienvenues du moment que tu es respectueux, il n'y a pas de violence et puis que tu es ouvert d'esprit, tu es le bienvenu. Donc c'est plus dans cet état d'esprit qu'on fait nos soirées.
Puis est-ce qu'il y a une fréquence? Est-ce que c'est une fois par mois vos soirées?
Au départ, on voulait faire ça trimestriel, mais on a eu tellement un bon retour en fait et une demande des participantes que maintenant on va essayer de le faire une fois par mois. Donc on a des dates qui sont déjà programmées, en tout cas jusqu'à la fin de l'été. Mais c'est ça, c'est un peu par là qu'on s'en va. La difficulté, je te dirais actuellement, c'est vraiment d'aller trouver les salles, d'aller trouver les bons collaborateurs aussi. Mais oui, prochainement, il va y avoir une fois par mois, on va avoir des événements qui vont sortir là, jusqu'à fin août.
Une fois par mois, puis je disais à Marilyn la dernière fois, personnellement, un de mes rêves, ça serait d'avoir une soirée hebdomadaire Queen and Queer dans un endroit dédié où tu viens vraiment là pour danser. Mais bon, ça, c'est dans un avenir.
Ouais. Moi aussi, j'en ai un qui est un autre rêve, là, puis qu'on partage aussi. C'est vraiment, on aimerait ça faire à l'extérieur, c'est sans ticket, là. Donc, c'est-à-dire faire comme un mini-festival, on aimerait beaucoup ça, en fait, dans l'avenir, se lancer dans cette direction-là.
Mm-hmm. Puis une fois par semaine, ça fait un lieu de rencontre un peu comme un bar aussi.
Exactement. Mm-hmm. Exactement. C'est créer une habitude, en fait. On a un lieu de rencontre, on a un lieu où on peut se retrouver entre nous, qui est vraiment, encore une fois, vraiment pour la communauté at large. Donc, c'est vraiment toutes les personnes.
DJ Sam, tu disais que tu étais un petit peu introvertie. Quelle relation tu as avec le public? Est-ce que c'est encore à la mode de faire des demandes spéciales aux DJ?
Écoute, hier encore, je mixais et puis oui, ça manque pas là les demandes spéciales. Je te dirais, moi, mon ratio d'acceptation des demandes spéciales est malheureusement bas pour plusieurs raisons. Je te dirais, au début, quand j'ai commencé, j'étais très, très ouverte à accepter les demandes et puis de faire plaisir aux personnes. Mais après, j'ai vite compris que des fois, ça peut t'apporter plus de problèmes qu'autre chose. Tu peux créer de la frustration si tu passes pas la chance au bon moment, tu peux il y a plusieurs catégories là, tu sais, dans les demandes spéciales, tu as les personnes qui vont venir vers toi, qui sont super gentilles, super sweet, avec un beau sourire, ils te font une demande, tu peux pas la refuser là. Après ça, tu as le fameux écoute, c'est ma fête aujourd'hui, ou c'est la fête à mon ami, ça c'est sa tune préférée, est-ce que tu peux la passer? Quand celui qui vient, il te pointe son téléphone, il te dit pas bonjour, rien du tout, il te pointe le téléphone au nez et puis il a écrit le nom de la chanson et voilà, donc tu dois t'exécuter. Tu as celui qui est agressif, alors lui c'est vraiment, c'est un acquis, cette personne-là c'est un acquis, tu es là pour passer de la musique, tu dois mettre la chanson que je te demande à l'instant même et puis il ne faut pas que tu tardes là non plus. Et puis il y a plusieurs types. Il y en a aussi qui viennent et qui me disent, pourquoi tu ne mets pas des chansons franco? Il y en a, ça va loin dans les revendications. Des fois je me dis, c'est peut-être pas le bon nom droit pour des revendications politiques. Là, on est là pour avoir du fun, tout simplement. C'est ça. Donc, moi, avec le temps, je te dirais, j'ai appris en fait plus à refuser poliment parce que des fois aussi, tu vas perdre un peu de focus. Le DJ, lui, il est en train de travailler. Ça reste un travail. Il doit maintenir une ambiance tout le long de la soirée. Et aussi, ce que les gens ne savent pas, c'est que parfois, les gens, quand ils sont dans leur bulle avec leurs amis, ils disent, ah, ce serait bon que j'ai cette tune là maintenant, ça serait trop cool. Je vais aller demander au DJ. Mais des fois, fois, ils font des propositions qui n'ont absolument rien à voir avec l'endroit, le moment, rien du tout. Donc, eux autres, ils se disent, OK, c'est ma tune, ça passe, mais ils ne voient pas un peu le côté plus global, là, qu'on est dans un endroit public avec d'autres bulles à gérer. Les gens voient plus de leur côté que l'aspect global. Et puis, qu'est-ce que je peux dire au niveau des demandes, c'est ça. Moi, j'en prends, je te dirais, pas vraiment. Dans les soirées Queen and Queer, les filles avant plus demander des styles, avant plus venir me dire « Ah, pourrais-tu jouer, mettons, du latino ?» ou « Ah, pourrais-tu jouer quelque chose avec du vocal ?» ou quelque chose comme ça, mais elles ne vont pas me demander une chanson spécifiquement. Là.
Est-ce que tu te souviens du premier disque que tu as acheté comme DJ?
Mon Dieu, c'est très très loin de ce que je joue aujourd'hui. J'ai une palette, je te dirais, musicale assez variée. Mon premier disque, c'était quand j'étais jeune, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Et puis en Côte d'Ivoire, il y a l'artiste Alpha Blondy. C'est un artiste reggae reconnu international. Donc là-bas, c'est comme la star absolue dans le pays. Donc je me rappelle, à l'époque, c'était des cassettes là, qu'on achetait. Donc je me rappelle qu'il avait sorti un album qui avait fait fureur à l'époque. Et puis c'était ça ma première cassette là. Ouais.
Est-ce que tu as une chanson aussi que tu sais que cette chanson-là, quand tu vas la mettre, le party va prendre?
Oui, comme on dit, j'ai quelques petites armes là dans mon ordinateur, oui, dans mes playlists, des fois, il y a toujours une tune. Mais c'est souvent des tunes disco, je trouve. Moi, dans mes soirées, quand je sors une tune disco, là, ça, j'ai l'impression que ça prend tout de suite. En ce moment, dans mes soirées, il y a une tune que j'aime beaucoup. C'est un remix d'un DJ que j'aime beaucoup. C'est Purple Disco Machine. Donc, lui, c'est un DJ qui a décidé de remixer une chanson très pop de Dua Lipa. Donc, c'est Don't Start Now. Donc, ça, c'est la tune, je te dirais, à chaque fois que je la mets, là, c'est comme le meilleur des deux. Demande la pop et remix un peu disco house, ça prend tout de suite là.
Ça va être le 14 mai la prochaine Queen and Queer?
Oui, ça va être le samedi 14 mai et on va avoir en première partie Shade Laurence qui va venir faire la soca. Elle fait aussi un peu de house et elle fait un peu de hip-hop, mais c'est plus vraiment la soca qui va primer la house à ce moment-là. Et par la suite, ça va pas prendre les commandes. Donc, elle va continuer de 23h jusqu'à 3h du matin.
OK, donc deux DJ dans la soirée.
Deux DJ dans la soirée du 14 mai, oui.
Super. C'est à quel endroit?
Et ce sera au Timis sur Ontario, comme la dernière fois, comme le 19 mars, au même endroit. Très, très belle salle, en fait.
C'est le 900 rue Ontario Est, donc vraiment à deux pas du village, très accessible pour les transports en commun. C'est une ancienne fabrique industrielle, c'est comme une sorte d'ancien entrepôt, puis vraiment très très bien, je te dirais très très bien situé. On a organisé notre deuxième soirée à cet endroit, puis on a eu des super de beaux retours sur la salle, la sono, donc on a décidé de remettre ça au même endroit là.
Génial, puis est-ce que vous avez d'autres dates à annoncer tout de suite?
Oui, en fait, je pense qu'on peut annoncer, en fait encore au Timis, on sera encore là le samedi 18 juin, donc encore une fois, ça sera une soirée de Queen and Queer, un autre volume qu'on va présenter là. On n'a pas encore le nom de la DJ, c'est encore en progrès, mais on veut encore une fois proposer deux DJ en fait à cette soirée-là. C'est ça, le 18 juin, ce sera le suivant.
Le 18 juin, puis il va y en avoir en fait tout l'été, puis il faut noter aussi que pour la Pride, on essaye aussi d'organiser un événement lors de la Pride, donc ça sera sûrement le vendredi 5 août. On essaye d'organiser aussi un party spécial Pride.
C'est génial. On va aller danser sur ta musique, DJ Sam, et les DJ qui seront invités aussi à vos soirées à découvrir. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission aujourd'hui.
Merci à toi. Merci beaucoup.
Au plaisir. On s'en va en musique avec Help Me Lose My Mind et on revient avec la réalisatrice Nancy Pettinicchio. Talk to me. And watch me crumble. You will see me come undone. Faithfully, I will look over. There I'll find what you've become.
Nancy Pettinicchio, la réalisatrice du film Falena. Vous écoutez Lesbosons avec Nathalie Dipalma sur les ondes de CKUT 90.3 FM.
Nancy Pettinicchio est une cinéaste de la relève basée à Montréal. Falena est son premier court-métrage en tant que scénariste et réalisatrice. Son travail actuel en cinéma de fiction et en création sonore documentaire explore le genre, la sexualité et le passage à l'âge adulte avec une emphase sur les perspectives féministes et queer. Nous avons le plaisir de l'avoir avec nous. Bonsoir Nancy Pettinicchio.
Bonsoir.
D'abord, est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de ton film Falena?
Oui, c'est un court-métrage de fiction d'environ 16 minutes qui explore en fait une jeune femme en transition qui déménage de la banlieue pour s'établir en ville. Puis, dans sa dernière semaine dans la banlieue, elle découvre une photo nue dans une vente de garage qui l'inspire à commencer à explorer cette pratique de photographie nue, de l'autoportrait pour explorer son identité de façon artistique. Donc, voilà, c'est un peu le résumé du projet.
Qu'est-ce qui t'a inspiré cette histoire?
J'ai écrit la première ébauche du scénario le soir même que j'ai déménagé de chez mes parents en banlieue sur la rive nord, que dans mon premier appartement à Montréal. Fait que j'étais en plein déménagement, en plein transition de vie, disons. J'étais au début un peu de mon indépendance. Puis je pense que j'étais dans un moment aussi où ce que j'étais beaucoup en... je le savais peut-être pas encore à ce moment-là, mais j'étais un peu en questionnement autour de ma propre identité. Puis tout mon travail a vraiment souvent un lien avec le rapport au corps. Puis c'est ça, cette idée d'autoportrait nu. Honnêtement, je sais pas trop d'où ça m'est venu, mais c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressée puis beaucoup inspirée dans les photographes que j'aime. Donc voilà.
Qu'est-ce que tu voulais explorer à travers ces personnages?
Je pense que surtout, en fait, il y a le personnage de Léla, le personnage principal, puis le personnage de Cassie, qui est sa meilleure amie. Je pense que pour moi, c'est l'histoire un peu principale, c'est de voir la transition dans leur amitié, un peu l'ambiguïté aussi de leur amitié, la force d'une amitié entre jeunes femmes qui existe depuis très, très longtemps, plusieurs années, puis le moment de passage à l'âge adulte quand on ne suit pas tout le temps le même parcours, puis que c'est peut-être la première fois qu'on on choisit une avenue ou une piste différente d'une personne avec qui on a comme tout passé nos moments importants jusqu'à maintenant. Donc, pour moi, ça, c'était quelque chose que je vivais, je pense, à ce moment-là, que j'étais la première de mes amis à partir. Puis, tu sais, ma meilleure amie, on est toujours aussi proches, mais elle habite toujours en banlieue. Elle n'a jamais tant eu un intérêt pour la ville. Fait qu'on vivait vraiment des réalités différentes. Puis, je pense que c'est une sorte de rupture qu'on on n'en discute pas tant, on veut pas trop l'avouer que c'est un peu la fin de quelque chose dans notre vie. Fait que c'est quelque chose que j'avais vraiment envie d'explorer. Puis ensuite, l'impact aussi au moment plus la réflexion introspective sur comment on commence à, disons, explorer notre propre identité quand on prend certains choix pour avancer notre vie dans une direction qui est peut-être différente que celle de nos amis pendant ce moment de transition vers l'âge adulte.
Puis est-ce que ça a été difficile pour toi de choisir les comédiennes pour ce film?
Non, honnêtement, pas difficile. J'ai travaillé avec un directeur de casting qui s'appelle Victor Tremblay-Blouin. Il a été vraiment super. C'est lui qui m'avait proposé Naïma. Au départ, j'avais scénarisé le film en anglais. Je suis anglophone à la base, puis j'ai commencé ce projet-là pendant mes cours à l'université. Fait que je l'avais scénarisé en anglais. J'avais un peu l'intention de le tourner en anglais. Puis ensuite, quand j'ai vu l'audition de Naïma, j'étais genre, OK, j'aimerais vraiment que ça soit elle. C'est vraiment la personne que je recherche. Puis de toute façon, le film, il serait bien mieux en français, anyways. Ça représente mieux mon expérience de banlieue. Et même si je suis anglophone à la base, j'ai quand même tout le temps grandi un peu en français. Donc, je trouvais que ça fitait mieux aussi dans juste le cinéma québécois, puis les thèmes que j'explorais. Donc, c'est ça. J'ai trouvé Naïma à travers l'agent de casting, puis Chanel aussi. Les trois, c'est comme ça que je les ai trouvés.
Il y a Nathalie Gascon aussi qui joue dedans.
Oui, exact, Nathalie aussi. Nathalie, c'était une prof à Victor, le directeur de casting. Fait qu'il l'avait connue en tant que prof, puis il m'avait dit « Hey, je connais quelqu'un qui serait parfait », puis c'était un bon match, là. On s'est vraiment bien entendu avec Nathalie.
Et c'est quelques jours après la fin du tournage que tu as annoncé être queer. Est-ce que ce film t'a révélé quelque chose sur ta propre réalité?
Oui, c'est drôle parce que quand j'en parle avec Naïma, tu sais, c'est drôle parce qu'elle, c'était comment? C'était pas on faisait pas vraiment un film queer, tu sais, genre, c'était pas tant. C'est un film pour moi qui explorait beaucoup l'amitié, mais cette ambiguïté de la relation entre les amis, tu sais, entre amitié et amour. Pour moi, elle existait depuis le début de la scénarisation, puis les gens qui me le demandaient, je me disais, oh ben, c'est comme tu veux, là. Si tu penses qu'ils sont en amour, peut-être qu'ils sont en amour, je sais pas trop. T'sais. Fait que j'étais très comme ouverte, puis je pense que c'est quelque chose que j'ai tout le temps un peu fait dans mes écritures, même quand j'étais ado, tu sais, j'avais aucune idée que j'étais queer, mais je pense que j'étais tout le temps en train d'explorer une certaine amour entre femmes, puis... Fait que c'est ça, quand j'ai terminé le tournage, puis pour moi, je pense que dans ma réalisation, pour ma direction de Chanel et Naïma, j'avais vraiment envie d'une certaine intimité, puis d'une certaine jalousie. Tout ça qui existe, tu sais, dans une amitié, c'est pas pour dire que ces personnages-là étaient en couple ou étaient en amour, mais c'est des ambiguïtés que pour moi étaient full importantes, puis je pense que c'était à travers la réalisation que j'étais aussi... J'étais juste, ça marquait un peu la fin d'un chapitre pour moi, vu que ça faisait tellement déjà, ça faisait 2 ans que j'avais débuté à scénariser ce film-là. J'avais un peu hâte à passer à autre chose, puis je pense que quand j'ai terminé le tournage, c'était comme un truc derrière moi, puis ça m'a un peu laissé la place de comme penser à moi-même, puis penser à mon identité, puis pas juste avoir la tête dans mon travail un peu, tu sais.
Mais au départ, c'était pas un film queer que tu faisais, c'est ça?
Pas nécessairement, tu sais. Moi, je m'identifiais pas comme queer avant ce tournage-là, tu sais. Peut-être 6 mois avant, je commençais à me questionner. J'étais dans une relation avec un homme, ça faisait... Je l'ai laissé, en fait, quelques jours après le tournage. Mais ça faisait plus que 4 ans qu'on était ensemble. Puis, wow. Tu sais, fait que c'était un peu un coming out bisexuel, mais ça faisait peut-être quelques mois que j'y réfléchissais, mais... c'était pas tant dans mon intention quand je réalisais, fait que je savais pas trop, mais après, dans le montage, tout ce qui est post-production, c'est devenu important pour moi de le souligner. Puis de comme se laisser aller dans cette direction-là, de laisser comprendre l'ambiguïté d'une façon qui était peut-être pas autant explorée au niveau de la scénarisation. Mais voilà.
Quel genre de personnage queer t'aimes voir à l'écran, toi, personnellement?
Ouais, c'est une bonne question. On est quand même Ces jours-ci, je trouve qu'on est quand même gâtés, là. Il y a des beaux trucs, surtout en télévision. Mais là, en parlant de ce film-là, je parle beaucoup de ben, mon envie de voir des coming of age avec des personnages queer, puis t'sais, des personnages de femmes, puis qui sont pas nécessairement dans une situation de victimisation, de faire face à de la stigmatisation. Puis c'est important de représenter ces genres de réalités-là, mais je pense que c'est important en termes de représentation de pouvoir grandir et de voir des gens queer bien heureux, bien en amour,
Oui.
qui vivent une belle vie parce que en fait, c'est vrai qu'on fait face à certaines, t'sais, à de la discrimination parfois, mais t'sais, y a plein de gens queer qui vivent une vie bien belle, qui sont bien, bien contents d'être queer. T'sais. Fait que c'est un peu ça aussi. J'aurais voulu voir ça à l'écran, t'sais, plus quand j'étais plus jeune.
Oui, c'est ça. On a souvent représenté à l'écran des rôles problématiques quand c'était des personnes homosexuelles.
Oh, c'est clair. Puis je trouve ça intéressant. Récemment, j'ai écouté Heartstopper sur Netflix, qui est un peu cheesy. Puis tu sais, c'est pas une émission incroyable, mais j'ai vraiment aimé parce que souvent, ce que je trouve drôle avec les films, disons les séries ou les films qui sont un peu corny ou ce que c'est genre, c'est souvent le coming out gay dans genre les films d'adolescence, de coming of age, c'est souvent genre ah, je pensais que j'aimais les filles, finalement, j'aime les gars, je suis un homme gay. Mais tu sais, il n'y a jamais de nuance de bisexualité, fait que, puis de juste, puis aussi du, tu sais, de peut-être être queer dans son genre, puis tu sais, il y a comme toutes ces nuances-là que je suis encore en train de les découvrir, puis c'est nouveau pour moi, comme presque 26 ans, puis je me dis, et si j'aurais vu ça à l'écran? Ça aurait tellement peut-être réveillé quelque chose en moi ou au moins, tu sais, me faire savoir que, genre, pas juste parce que j'aimais les hommes, que, genre, j'étais une femme cis, straight, genre, finalement, là, je suis genre, ah, oh, je sais pas si je pense pas que je suis une femme, puis j'aime pas juste les hommes, puis, tu sais, mais c'est des trucs que, ah, oh, ça serait juste trop le fun de voir ces genres de personnes à l'écran, ben heureux, qui vivent une vie, genre, remplie de belles choses, puis, tu sais, en tout cas, ça, c'est ça que j'aimerais voir.
Puis est-ce que tu désires poursuivre dans le court-métrage ou tu aimerais faire un long-métrage éventuellement?
Peut-être éventuellement. Pour le moment, c'est vraiment pas dans mes plans. Je suis vraiment dans le court-métrage. J'adore le court-métrage. C'est vraiment une super façon de aussi de préciser une thématique de façon simple et concise et d'essayer de trouver la meilleure manière de l'explorer en peu de temps puis d'avoir un impact sur le public. Tu sais, c'est quand même un gros challenge de faire du court. Puis ouais, j'ai envie de continuer à faire ça.
Est-ce que tu penses présenter ton film à Imagination?
Peut-être, ouais, je pense que oui, je pense qu'on va le soumettre. Là, à voir si le film est sélectionné. Ouais.
Est-ce que tu en as un autre court-métrage qui s'en vient?
En ce moment, je travaille sur un court-métrage documentaire avec un organisme qui s'appelle le Portail VIH-SIDA du Québec. Puis c'est sur, en fait, l'évolution et l'histoire du VIH au Québec. Je suis vraiment dans ma phase de recherche en ce moment. Fait que je pense que je m'enligne vers une certaine exploration de l'art et du militantisme au Québec au début de la crise de SIDA, puis aujourd'hui. Explorer un peu comment on continue à utiliser l'art pour explorer la vie avec le VIH, malgré une très, très grande différence dans la qualité de vie puis de santé aujourd'hui et au tout début. Fait que je suis vraiment dans ma phase de recherche, mais je réalise à quel point que je fais plein de belles rencontres. Juste, tu sais, comme hier soir, j'étais chez des amis, puis j'ai rencontré des gens. Tu sais, je parle de ce projet-là, puis tout le temps, comme tout le monde est genre, ah ouais, tu devrais parler à cette personne-là, tu devrais parler à cette personne-là. Fait que c'est fou à quel point ça fait toujours une très, très grande partie de notre univers social et culturel, le VIH. Puis c'est comme un très. C'est une thématique qui est très en lien avec ce que j'aime explorer dans mon travail. Fait que voilà, je travaille là-dessus en ce moment.
Et j'ai vu que tu avais aussi un projet de balado documentaire. Est-ce que tu veux nous en parler?
Oui, je suis dans la dernière petite phase de post-production. J'espère le terminer sous peu. Mais mon projet balado, c'est deux épisodes avec deux différentes personnes qui expriment un moment de transition dans leur rapport au corps, donc leur rapport à la maladie surtout, puis à la santé. Puis c'est un projet qui explore certaines thématiques assez lourdes, mais pour moi, j'ai fait ce projet-là avec deux personnes qui ont un très grand sens de l'humour, qui ont, en fait, pour moi, ce projet-là, c'était une exploration de comment le témoignage peut être une façon de guérir, puis le fait de témoigner de ton histoire une étrangère comme moi, dans ce cas-ci, avec ces deux personnes-là. Ça peut vraiment être une expérience intéressante de collaboration, de comme un peu construire l'histoire de sa vie, puis de la repenser, puis de réfléchir à, en fait, tous les éléments et les facteurs dans notre vie qui construisent notre identité puis notre rapport au corps, en fait. Fait que voilà, c'est ça le projet. Ça sera deux épisodes d'environ 20-25 minutes qui sont un peu en une exploration sonore, d'immersion sonore dans le monde de ces deux personnes-là.
Est-ce que tu sais où ce qui sera disponible?
Pas encore. Honnêtement, c'est peut-être pas super de l'avouer, mais j'ai pas encore décidé de ma diffusion pour ce projet-là. C'est sûr qu'il va être disponible en ligne, mais j'aimerais pouvoir trouver une façon intéressante de le lancer dans le monde sans juste le mettre sur le web puis espérer que les gens vont l'écouter. Fait que j'espère pouvoir trouver une façon intéressante de partager ça avec les gens. Je m'imagine plein de façons d'adapter ce projet-là. Ça serait super le fun d'avoir une installation, une séance d'écoute ou je sais pas. Fait que je suis vraiment en réflexion. Je pense que j'aimerais peut-être aussi essayer le parcours en festival sonore. T'sais, c'est quand même assez nouveau. Il y a des festivals pour le podcast, pas juste le cinéma. Fait que ça, c'est très intéressant, je trouve aussi. Je serais curieuse de peut-être essayer de poursuivre ça, mais c'est toujours, c'est pas exactement défini, mais c'est sûr que ça va être disponible pour le public, j'espère, avant la fin de l'année.
Ton film Falena a été présenté vendredi dernier au 18e gala Prends Secours à la Cinémathèque québécoise dans le cadre des 40e rendez-vous de Québec Cinéma. Comment ça s'est passé?
Ça s'est super bien passé, c'était super le fun. C'était ma première fois au gala, c'est mon premier court-métrage, puis c'était vraiment le fun d'être parmi tant de vraiment beaux films. Il n'y avait pas de projection, fait que c'était juste les prix qui étaient donnés aux artistes. Puis j'ai reçu le prix de la voix de production Couronne-Nord, ce qui était super, de Patrice Laliberté, Julie Grelot et Guillaume Lorrain.
Félicitations.
Merci. C'est une boîte qui a été fondée par des personnes qui ont grandi sur la Rive-Nord, comme moi. Puis c'est gentil aussi parce que Patrice, quelqu'un que je considère un mentor, je l'ai rencontré quand j'étais au secondaire, puis qui faisait un genre de programme sur le cinéma dans des cours de français, dans des écoles secondaires. Fait qu'on s'est rencontrés à travers ça, puis on a toujours un peu suivi, on s'est suivi à travers les 10 dernières années. Donc, c'est quand même spécial pour moi de pouvoir recevoir ce prix-là.
Ton film sera aussi à la prochaine édition du Festival Filministe qui aura lieu du 4 au 12 mai prochain et il sera projeté le dimanche 8 mai à 13h au Osgan Plaza. J'imagine que tu vas faire le tour des festivals avec ce film. On parlait d'imagination. Est-ce que tu as d'autres projections qui sont prévues?
Pas encore. Il y a la projection le 8 mai. Je vais être là. Ça serait le fun de voir des gens. Puis je pense qu'il va y avoir une discussion avec les cinéastes de ce programme par la suite. Fait que ça va être super intéressant. C'est vraiment un super beau festival. Fait que je suis vraiment touchée d'être parmi ce festival-là. Mais j'ai pas encore d'autres projections qui s'en viennent, du moins que j'ai le droit d'annoncer. Donc, j'espère avoir d'autres sélections bientôt. Puis j'espère aussi pouvoir avoir d'autres projections à Montréal, puis au Québec. C'était super à Regard aussi. J'avais eu ma première à Regard. C'était juste incroyable là, de présenter à ce public-là. Donc, j'ai pas encore d'autres choses à partager, mais j'espère voir des gens au Filministe le 8 mai.
Ben, c'est déjà un très bon début, je trouve, pour ton film.
Ouais, merci. Ouais, je suis super chanceuse, vraiment. Là, pour un premier film, j'aurais pas pu demander mieux en ce moment. Je suis très contente.
Est-ce qu'il y a un endroit où on peut suivre tes projets?
Falena, une page Facebook et Instagram. C'est juste Falena Film. C'est là qu'on partage toutes les nouvelles, les sélections aussi, des nouvelles sur le projet. Voilà.
Merci beaucoup, Nancy Pettenicchio. Et au plaisir de suivre tes projets futurs, vraiment.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'entretien. C'est apprécié.
Plaisir. Merci à nos invités Marilyn Thomas et DJ Sam. Ne manquez pas la prochaine soirée Queen and Queer le 14 mai prochain à partir de 21h au Timis, situé au 900 rue Ontario Est. Vous pouvez suivre leur page Instagram à Queen Queer MTL. Merci à Nancy Pettinicchio. Son film sera projeté le dimanche 8 mai à 13h au Osgan Plaza lors du festival Filministe et vous pouvez suivre ses projets sur Facebook, la page Falena Court-Métrage. Merci DJ Sam pour la musique qui a ensoleillé l'émission de ce soir. Nous, on se donne rendez-vous le 16 mai prochain à 19h pour une autre émission de Lesbosons.
In the case of symptoms similar to those of COVID-19, such as fever, cough, sore throat, loss of taste, or smell, you should take a rapid home screening test. If you test positive, isolate yourself at home and please follow the self-isolation instructions. If you don't have a rapid home screening test, please self-isolate for the recommended period. Visit quebec.ca/self-isolating for complete instructions on how to protect yourself and others. A message from the Gouvernement du Québec.
The Community Media Advocacy Center is hosting a series of consultative events titled Building an Anti-Racism Strategy for Canadian Broadcasting. Made possible with support from the Anti-Racism Action Program at Canadian Heritage, these important and timely events will help confront barriers experienced by Black, Indigenous, and people of color in the media.
Events will be hosted in Montreal, Vancouver, Halifax, Calgary, and Winnipeg, culminating in a national conference to be held at Carleton University in Ottawa. These events will host presentations and open forums to develop an anti-racism strategy that will reduce barriers to participation in media and broadcasting policymaking for racialized Canadians.
Register for free to join the event in person at UQAM on Saturday, April the 30th. Presentations start at 10 a.m.
Complete details are online at www.antiracism.media.
This is a CKUT co-presentation.
The following is a previously broadcast program.
Hi, I'm David Suzuki, and you're listening to CKUT 90.3 FM in Montreal. Information to grow the brain.